Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les Minutes des Fiertés, l'émission flash de Esprit Occitanie à thème LGBT et féministe. Aujourd'hui et en 20 minutes, nous aborderons d'abord le sujet du dernier scandale au César concernant l'acteur Sofiane Benacer, accusé de violence et de viol. Michèle Vianès, présidente de l'association féministe Regard de Femmes, est aujourd'hui notre invitée. Et enfin, nous nous intéresserons à la mise en garde à vue du youtubeur Norman pour corruption de mineurs. L'acteur Sofiane Benacer, rôle principal du film Les Amandiers, sorti en salle le 16 novembre 2022, figurait parmi la liste pour le prix de la révélation des Césars 2023. Jusqu'à ce que ce dernier soit visé par plusieurs plaintes pour violence et pour viol provenant de 5 ex-compagnes. Suite à ces plaintes, ce dernier s'est vu retiré de la liste des Césars par l'Académie des Arts et Techniques du Cinéma, mais ça n'était pas la première fois que les Césars étaient touchés en leur sein par de telles accusations. Nous allons nous intéresser au sujet dans quelques instants à travers notre interview avec Michèle Vianès, présidente de l'association Regard de Femmes. Regard de Femmes est une association féministe basée à Lyon, créée en 1998 et qui est aussi aujourd'hui une ONG avec statut spécial au Conseil économique et social de l'ONU. C'est également une OING auprès de l'Organisation internationale de la francophonie. Sa présidente va donc nous apporter un point de vue féministe sur la question suivante : que faire des accusés au César ? Et de manière générale, sur ce qu'il en est du sexisme dans le milieu du cinéma aujourd'hui. Bonjour Madame Vianès, merci d'être avec nous.
Bonjour Chloé.
Alors, je vous propose de commencer avec notre actu fraîche. Donc, comme on l'a dit, le retrait de Monsieur Benacer au prochain César pour violences sexistes et viols. D'abord, j'aimerais vous demander, est-ce que selon vous, c'était la solution de le retirer de la liste ? Est-ce que c'est suffisant ?
Écoutez, on se retrouve aujourd'hui face à, je dirais, une censure via les réseaux sociaux. Donc, ça pose quand même un problème parce qu'il y a toujours la présomption d'innocence qui joue. Mais d'un autre côté, quand on voit la difficulté pour certaines femmes, et en particulier les jeunes femmes, de parler, d'être écouté, d'être entendu. Donc on se dit qu'il faut aussi qu'il y ait un soutien plus large, en particulier qu'elles essayent par tous les moyens possibles de se faire entendre. Alors là, de toute façon, la justice est appelée. Hein, donc on n'est pas sur simplement des on-dits d'une part et d'une autre, puisqu'il y a eu, dans le cas présent, 4 plaintes déposées par des jeunes femmes, hein, donc qui étaient avec lui, je crois, à l'école de théâtre à Strasbourg, et qui ont été retenues. Des plaintes dont elles ne sont pas classées sans suite, puisqu'elles sont retenues, qu'il était mis en examen. Donc je pense que dans ce cas d'espèce, c'est assez sérieux pour alerter, et je suis très, j'emploie des euphémismes, alerter le jury du prix, donc, qui risque de César, qui risque ensuite de se retrouver pris dans la tourmente pour ne pas avoir suivi cette accusation de violence envers un de leurs candidats au prix. Donc voilà, c'est vrai qu'on est. Moi, je suis toujours très très mal à l'aise par rapport à ces censures, parce que tant que la justice n'a pas parlé, c'est difficile de condamner. Et puis, d'un autre côté, on sait que le temps de la justice est lent, ce qui est normal, mais en attendant, que faire des plaintes qui ont été déposées ? Voilà, c'est vraiment, je crois qu'on est vraiment dans le cas d'espèce aujourd'hui.
Alors, vous avez prononcé le mot, hein, présomption d'innocence.
Oui.
Alors, certains sont de cet avis. Est-ce que le bénéfice du doute ne pourrait-il pas être un prétexte pour laisser ces acteurs accusés faire partie des listes ?
C'est là la question, parce que il y a la présomption d'innocence qui joue, mais je dirais qu'il faudrait qu'elle joue dans tous les sens. C'est-à-dire que la parole aussi de ces femmes, elle doit être entendue. Donc on est vraiment dans une situation, la situation la plus limite, et je dirais que pour nous, association de droits des femmes, on est vraiment prise à la fois par le fait qu'il est indispensable que ce soit la justice qui décide et non pas un tribunal populaire qui, et, ou encore plus médiatique et encore pire les réseaux sociaux. Ça, pour nous, c'est quelque chose sur lequel on dénonce sans arrêt, quoi, le tribunal des réseaux sociaux. Mais d'un autre côté, dans ce cas d'espèce où c'était quand même, si vous voulez, il y a des mises en examen. C'est pas comme si on était que sur la parole de l'un ou de l'autre. Donc, c'est que la parole des personnes qui ont subi les violences. Je ne veux pas parler de victimes parce que les femmes ne sont pas des victimes. Hein. Ce sont des actrices de leur vie. Hein. Et donc, en tant qu'actrices de leur vie, elles ont considéré que cet homme était allé trop loin, qu'elles n'en sont pas responsables, donc elles ont fait recours à la justice. Pour moi, c'est là le point le plus important et celui qu'il faut retenir dans cette affaire. Mais en attendant que la justice se prononce, il me semblait prudent, je pèse mes mots, mais je suis même très prudente, que justement cette nomination éventuelle soit retirée parce que ça risquait d'éclabousser après toute l'Académie des Césars qui va ensuite en pâtir, alors que c'est quand même pas ce n'est quand même pas eux qui sont responsables d'une manière ou de l'autre. Et puis si vous me permettez, ce que j'aurais aussi dire, moi ce qui m'a aussi un petit peu agacé, c'est la victimisation de Sofiane Benacer.
C'est-à-dire,
il assure être innocent, c'est normal. Tous les coupables disent, enfin, ils sont, avant d'être condamnés, disent tous qu'ils sont innocents. Par contre, il joue, lui, sur la victimisation. Donc on voit bien comment on a inversé les rôles. Ce ne sont pas les femmes qui sont les victimes, mais c'est lui. Il est victime d'avoir été accusé. Et puis, il fait jouer ses origines, voilà, et donc qu'il ne connaîtrait pas les codes du milieu, etc. Pour lui passer par la victime. Donc c'est là où, pour moi, il y a, je dirais, un peu à la fois une perversion de la situation et qui me choque aussi personnellement, très fortement, parce que c'est beaucoup trop facile et on sait très très bien que dans les cas, alors pour aller plus largement, dans les cas de violence envers les femmes, très souvent elles hésitent à déposer plainte ou en parler autour d'elles parce que la personne qui a abusé d'elles joue justement vis-à-vis de l'entourage familier, joue à la personne très ouverte ou va jouer à la victime. Donc c'est l'agresseur qui va se plaindre et la victime qui ne sera pas entendue. Alors là, je ne juge pas, je ne dis pas que Sofiane Benacer a tort ou raison, ou c'est l'agresseur ou la victime, mais je viens dans le cas général et on voit trop souvent justement des femmes ou des jeunes filles qui n'osent pas déposer plainte parce qu'elles ont peur de ne pas être écoutées. Et là, je trouve que d'instrumentaliser ses origines pour jouer à la victime, pour l'agresseur, ça me choque profondément.
Et alors, justement, en attendant le verdict de la justice, est-ce que, selon vous, on peut aller voir son dernier film, donc Les Amandiers, en ayant bonne conscience?
Là, c'est quelque chose de... Alors, j'aime beaucoup votre expression « bonne conscience ». J'allais vous dire, c'est une question de conscience personnelle. Chacun fait ce qu'il veut. S'il a envie d'aller voir Les Amandiers parce qu'il veut savoir se faire une opinion, ou bien s'il considère que entre l'acteur et l'homme, il y a un écart énorme, hein, puisque et puis on ne va pas tomber dans les travers du cinéma et de la théorie woke, hein, qui voudrait que pour pouvoir jouer un rôle, il faut l'avoir été. On voit ce qui se passe pour les en fonction de la couleur, des préférences sexuelles, la trans, etc. Où on vous dit vous ne pouvez pas jouer parce que vous n'êtes pas trans. Et que, ce qui vient de se passer, pour je crois que c'est chez vous, hein, je ne sais plus si c'était à Toulouse ou à Bordeaux, où il y a une pièce de théâtre qui ne peut pas être jouée parce que l'actrice qui va jouer le rôle de la personne trans, ce n'est pas trans. Donc il ne faut pas non plus tomber dans ces travers. Mais et je comprends que si on a envie d'aller voir le film, qu'on aille le voir. Il n'y a pas à se mettre mauvaise conscience. Par contre, que le film soit primé, là, il y vient de la responsabilité de l'Académie des Césars. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre sur cette distinction. entre la liberté de conscience personnelle et puis la responsabilité d'une entité comme l'Académie des Césars.
Oui, on passe un peu du privé au public.
Exactement.
Alors, la réalisatrice de ce film, Valeria Brunetedeschi, a agi en connaissance de cause en choisissant cet homme, puisqu'elle connaissait les accusations. Est-ce que l'éthique au sein des Césars ne dépendrait pas surtout à la base des choix des réalisateurs en termes d'acteurs ?
Alors là, vous êtes en train de dire que Valérie, la réalisatrice, donc Valérie Bruni-Tedeschi, savait.
Oui.
Là, je ne sais pas si c'est vraiment ce qui est dit. Hein. Là, c'est vous qui le dites, donc je vous en prenez la responsabilité. Je sais qu'elle a défendu son acteur, mais de là, en invoquant la présomption d'innocence, mais de là à dire qu'elle savait exactement la situation avant, je pense qu'il faut faire attention quand même. Enfin, pour moi, je n'irai pas dans ce sens, je ne sais pas. Mais pour en revenir à votre question, je reste sur ma réponse, c'est-à-dire que l'Académie des Césars, d'ailleurs, je crois qu'ils vont changer leur règlement. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ceux qui étaient avant sous le silence médiatique total est en train de parler. Donc ils savent qu'ils vont se retrouver avec d'autres acteurs qui vont se retrouver dans la même situation. Donc à partir de là, où est leur responsabilité, où est-ce qu'elle s'arrête? Du moment où il y a eu quand même des plaintes déposées et mises en examen, c'est difficile de dire qu'ils ne sont pas au courant. Par contre, quand le film le tournage a commencé, ce n'était pas tout à fait cette situation, je crois, hein, donc là je n'en suis pas sûre. Donc c'est pour cela qu'il faut toujours être très prudent dans ces affaires de mise en accusation, parce que il me paraît vraiment indispensable que ce soit quand même la loi, parce qu'on est dans un état de droit, nous avons la chance d'être dans un état de droit, où nous avons un arsenal législatif pour lutter contre les violences envers les femmes qui est très important, et qu'il faut que les femmes aillent déposer plainte. Mais on sait que dans le contexte d'emprise qui est faite, et là aussi on est dans une emprise pour les jeunes filles, elles n'ont pas dû oser déposer plainte tout de suite, donc il faut que cette parole puisse se libérer. Mais d'un autre côté, ça ne veut pas dire que si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, il faut dire qu'il a agressé, il faut laisser quand même la décision finale à la justice. Et c'est là où c'est pour ça que je vous dis depuis le début que moi c'est des situations dans lesquelles je suis toujours pas très à l'aise, parce que on a besoin de temps, hein, le temps de la justice, c'est quelque chose d'important pour réfléchir, pour connaître les tenants et les aboutissants de part et d'autre, et bien évidemment, surtout, enfin, écouter les femmes qui accusent de viol et qui déposent plainte, hein, pas simplement qui accusent sur les médias, qui déposent plainte, que lorsque ces plaintes sont écoutées et suivies, eh bien là, je pense qu'il faut quand même en tirer des conséquences.
Une situation délicate, oui, mais alors juste pour en revenir à la réalisatrice en question, elle a affirmé connaître les accusations de l'acteur au moment où elle l'a recruté, si on peut dire, pour le rôle. Et c'est pour ça qu'elle continue de prendre sa défense. D'ailleurs, c'est qu'elle a toujours cru en sa présomption d'innocence, même avant. Je voulais juste préciser ce point.
D'accord, merci. Oui, mais je pense que c'est important, en effet.
Alors avant de passer à un autre axe de notre interview, je vous propose d'écouter l'opinion des gens ici à Toulouse. Est-ce qu'il faut évincer ou non des listes des Césars les personnes accusées d'agression sexuelle ?
Pour moi, c'est un métier, on est tout le temps en représentation. Même s'ils ne veulent pas, même s'ils disent « mais non, c'est pas vrai, on a une vie privée », c'est pas vrai. Ils sont tout le temps en représentation. Les gens s'identifient à eux. Si on commence à s'identifier, si on commence à récompenser des gens qui n'ont pas, on respecte les règles, on respecte la personne, on respecte l'humain, en fait, on va leur donner du crédit.
Oui, moi, je pense qu'il faut les retirer, ouais, tout à fait. Ouais. Après, c'est une question de morale et d'éthique, évidemment, quoi. Donc après, ils ont tous le droit à être innocents dans un premier temps, mais comme elle dit, il n'y a pas de fumée sans feu, évidemment. On ne peut pas accuser comme ça quelqu'un sans avoir de preuves, de toute manière, quoi.
Temporairement. autant jusqu'au moment du verdict, savoir s'il est vraiment coupable ou pas.
Oui. Éradiquons-les de la liste. D'accord. Et de tous les milieux artistiques. Bah parce que c'est des agresseurs, c'est des violeurs, c'est illégal, c'est pas normal qu'ils soient représentés, c'est pas normal pour les victimes, c'est pas normal pour la société, et il faut que ça change.
Bah étant donné les circonstances et le fait qu'il y a quand même peu d'accusations qui portent leurs fruits, qui donnent des procès, enfin le nombre de choses qui sont classées sans suite, je pense que oui, on peut quand même croire du coup les personnes qui accusent.
Première personne qui parlait de modèle, hein. C'est une fois que la personne, s'il avait eu le prix, il aurait été considéré comme un modèle, et c'est là où justement le lien entre la morale, hein, et joue, parce que logiquement on n'a pas, faut pas confondre morale et droit, hein, mais là dans la mesure où il était modèle, et puis par contre il y a une autre phrase du par un auditeur qui parlait de pas de fumer sans feu. Alors là, ça c'est pas, enfin je n'y crois pas du tout, parce que il suffit de faire monter, surtout avec les réseaux sociaux, pour raconter il y a n'importe quoi sans preuve. Donc là il y a souvent beaucoup de fumée et pas de feu, hein. Donc mais autrement, enfin je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par la plupart des personnes, c'est ce que je partage, avec toujours cette distinction qui a été bien faite, hein, par les uns ou les autres, c'est-à-dire qu'entre aller voir un film, si on a envie de voir le film, et passer personnellement outre ça, ce qu'on dit de lui, mais d'un côté, et d'autre part être reconnu comme ayant reçu un César, il y a une très large, l'écart est très large, et autant sur l'un chacun fait en conscience, autant sur le second, ce serait prendre parti pour l'Académie des Césars très fortement, et ça pourrait donc faire éclabousser toute l'Académie et toutes les personnes qui ont eu des prix auparavant.
Oui, on sent que les réseaux sociaux, selon vous, tiennent une très grande place dans ces affaires aujourd'hui. Alors je vous propose maintenant une petite rétrospective sur l'affaire Polanski, qui tient quand même, oui, une grande place dans notre sujet. Oui. Alors je rappelle pour les auditeurs que Roman Polanski est un réalisateur, producteur, acteur franco-polonais multi-récompensé, et notamment connu pour son célèbre film J'accuse. Et ce dernier est accusé justement et a été condamné pour viol sur mineur et entre autres des actrices. Il a plus ou moins toujours réussi à échapper à la justice depuis les premiers faits remontant à 1977. Et le scandale a éclaté aux yeux du grand public lorsqu'il a été nominé au César 2020 pour son film J'accuse. Il aurait d'ailleurs pu être le maître de cérémonie de la saison 2017 s'il n'avait pas refusé sous la pression de groupes féministes. Alors est-ce qu'on peut dire que les Césars essaient de se racheter un peu une conscience par rapport à l'affaire Polanski quand on voit à quelle vitesse ils ont éradiqué Sofiane Benacer ?
Oui, se racheter une conscience, non, mais je pense que c'est une évolution de la société. Il y a quelques années, quand on parlait de, enfin pour nous, l'association Droits des Femmes, qui agissons depuis bientôt 25 ans pour éliminer les violences envers les femmes, on sait très bien que il y a quelques années, nous n'étions pas du tout écoutés. On est vraiment dans cette situation où il y a eu cette accélération due à la conscience de la société, pour laquelle je suis bien sûr totalement, je trouve ça très très positif, c'est-à-dire qu'on n'accepte plus les violences envers les femmes. Voilà. Ça, c'est quelque chose de clair, de précis au niveau de la société. Par contre, on voit toujours que les violences perdurent, hein, et donc c'est bien que certains ne trouvent pas ça choquant, ou bien continuent à les trouver banales ou anecdotiques. Mais là, je pense que c'est ça qui est important, et justement, vous avez bien mis l'accent sur le fait qu'il y a quelques années, ça ne posait pas de problème moral ou éthique, hein, comme vous voulez, mais qu'aujourd'hui, ce serait absolument incompréhensible, et que justement toutes les grandes organisations font très très attention à ceci, et c'est une vraie, très grande victoire, je pense, pour les femmes, et surtout pour les femmes victimes de violences, parce que plus on en parle, plus celles qui sont victimes mettent des mots dans ce qu'elles subissent et vont aller jusqu'à la plainte, parce que ce qui est important, c'est que le jugement soit fait et soit dit. Voilà.
Est-ce que vous considérez que Florence Foresti, qui était maîtresse de cérémonie lors de cette édition 2020, a fait sa part, si on peut dire, en dénonçant sur scène Polanski ?
Elle a agi en conscience. Donc pour moi, c'est... Alors, on peut être d'accord ou pas d'accord avec elle, mais moi, je pense que c'est quelqu'un qui a agi en conscience, qui a dit non, moi, je refuse, enfin, savoir dire non, hein, parce qu'un peu, c'est tout à fait le discours extrêmement important hein, pour les femmes, de savoir dire non, et d'oser dire non, et d'oser dire non en public. Alors, de la même manière que d'autres profitent de leur place médiatique pour faire taire, dans les femmes, elle a profité de sa place médiatique pour justement ouvrir la parole et parler. Donc là, pour moi, c'était important qu'elle ait pu le dire et qu'elle ait pu être écoutée. Et on voit toujours les conséquences à plus ou moins long terme. Et là, je pense que le fait que l'Académie des Césars retire le comédien de la course pour l'édition 2023 vient en conséquence directe de l'expression de Florence Foresti au César il y a quelques années quoi.
Alors on va se pencher maintenant, si vous le voulez bien, sur le sexisme en général dans le milieu du cinéma. Est-ce que vous considérez que c'est un milieu sexiste dans ses fondements?
Oui, je vais être claire, il n'y a qu'à voir les rôles qui sont attribués aux femmes dans les films. Le nombre de femmes qui ont... Alors, on parlait des Césars, moi je vais vous parler des Oscars. Donc cette année, il y a eu des Oscars féminins pour le metteur en scène, etc., ce qui est très, très rare. Donc là aussi, on a à tous les niveaux, si vous voulez, on a le niveau de la comédienne qui, dès l'école de comédie ou de théâtre, se retrouve dans une situation où elle doit réagir à des violences psychologiques, physiques et sexuelles, hein, donc avec la gradation dans toutes ces violences, et puis jusqu'au fait que les nominations dans les scènes nationales, les nominations, etc., sont vraiment avec un avantage extrêmement fort pour les hommes, si ce n'est une quasi permanence des hommes dans toutes les directions, par exemple des scènes nationales, dans toutes les nominations, et les femmes essayent, se battent, agissent, se montent en association, essayent de faire avancer, mais on est encore très 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 loin de la parité. Et puis on en est, par exemple, je vous donne un exemple très clair, à Lyon, j'ai été interviewée par des étudiants à Lyon, des étudiants en communication à Lyon, au niveau de la fête des Lumières, en me disant, est-ce que vous pensez que la fête des Lumières est féministe? Je dis, ben non, pas du tout, il n'y a qu'à voir, parmi tous les spectacles qui sont soutenus par la ville de Lyon, et sur lesquels il y en a une trentaine, il n'y en a qu'un qui est... fait par les femmes et entièrement par les femmes. Donc on est bien partout, où que ce soit, à quelque niveau que ce soit, sur un sexisme extrêmement fort à l'encontre des femmes. Et ce n'est pas parce qu'elles manquent de talent, c'est tout simplement parce qu'elles sont femmes. Et donc c'est pour ça qu'on peut parler de sexisme.
Alors pour en revenir au César, c'est une cérémonie qui existe depuis 1976, mais ce n'est qu'à partir de 1990 qu'on voit une femme maîtresse de cérémonie avec la réalisatrice et animatrice Ève Ruggieri. Est-ce que cette période coïncide avec le début des prises de conscience féministes ?
Oui, c'est-à-dire que ça a commencé un petit peu, bon, je vais reprendre, j'aime pas trop, mais je vais reprendre les termes anglais, c'est shame, hein, voilà, donc name and shame, c'est-à-dire dire et faire honte. Donc c'est à ce moment-là où, dans les consciences des organisations, ils se disent, bon, c'est pas possible qu'on ait pas de femmes. Alors au début, c'était une femme potiche, hein, je veux pas dire qu'elle soit potiche, hein, mais enfin, il fallait qu'on ait une femme comme ça. Et puis, il a fallu, par exemple, pour les élections, hein, la modification de la Constitution, alors que dans la loi, depuis 1944, les femmes sont électrices éligibles en France, mais il a fallu modifier la Constitution pour qu'on puisse avoir une parité effective, et donc une parité de résultats. Parce que c'est très bien de dire qu'il y a une mixité, mais il suffit qu'il y ait une femme et 99 hommes pour qu'il y ait une mixité. Mais on n'est pas du tout dans la parité. Donc je crois que les avancées, par exemple, qui ont commencé en politique, c'était pas le plus facile, mais là, il y a eu la loi, et bien ça... ça a ruisselé un peu dans tous les domaines. Et maintenant, vous avez des couvertures de journaux où il n'y a que des hommes, par exemple, ça choque tout le monde, et puis ça choque évidemment. Donc c'est là où on voit bien, comme je vous disais tout à l'heure, qu'au point de vue de la société, les femmes et les hommes ont une place égale à tous les niveaux de responsabilité. C'est bien ceux qui ont le pouvoir qui ne veulent surtout pas le laisser aux femmes. Donc on voit bien la distinction entre les gens qui ont le pouvoir et puis la société dans son ensemble.
Bien sûr. Le temps file, Madame Vianès, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Je vous souhaite une bonne fin de journée.
Merci à vous aussi.
Maintenant, passons à une actu encore plus fraîche. Le youtubeur et humoriste français Norman Tavo est sorti mardi soir de sa garde à vue pour corruption de mineurs et viol sur 6 jeunes femmes en tout. Cette enquête est confiée à la Brigade de protection des familles. Norman était concerné depuis 2018 par le hashtag « Balance ton youtubeur », car ce n'était pas la première fois qu'on entendait parler de lui pour ce genre d'affaires. Entre autres, du harcèlement sexuel envers une mineure apparemment fan du youtubeur est en cause depuis maintenant plusieurs années. C'est quelque chose qui revient souvent dans ces accusations, le prisme de la célébrité. D'après les potentielles victimes, le youtubeur se servirait de sa notoriété, cumulant aujourd'hui 12 millions d'abonnés, pour impressionner plus facilement ses cibles et obtenir des rapports sexuels. Mais rappelons d'où vient le scandale, pour l'instant encore non résolu à l'origine. Le nom de Norman est accolé à cette affaire depuis 2018, lorsque le youtubeur Squeezie, ou Lucas Auchard, un ami proche du principal concerné par ailleurs, dénonce dans un tweet des comportements inappropriés de certains youtubeurs. Depuis cette période, les dénonciations se multiplient et une des victimes aurait été contactée par une trentaine d'autres femmes rapportant des propos similaires. Cette émission touche à sa fin, c'en est tout pour l'actualité féministe aujourd'hui. Nous avons voyagé du monde du cinéma jusqu'au monde un peu plus moderne de YouTube pour aborder des sujets très clivants ces temps-ci. Je remercie encore Michèle Vianès, présidente de l'association Regard de Femmes, d'avoir été notre invitée. C'était les Minutes des Fiertés sur Esprit Occitanie. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.